Émission Entre les âges.
Bienvenue à l'émission Entre les âges sur Radio Cité, émission présentée par François-Xavier Poisa, une émission qui traite surtout de musique classique et de prisme entre les générations. Aujourd'hui, mon invité du jour s'appelle Elena Macherel, elle est flûtiste et elle est compositrice, elle est aussi flûte solo dans un grand orchestre. Et elle nous présente son dernier CD qu'elle a enregistré à Londres avec un orchestre, les London Mozart Players, et avec une harpiste, Tiasha Gaffner, qui est suisse romande également. Et tout ça sous le label roman, le célèbre label Claves. Bonjour Elena.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, le principe est simple, l'invité propose des extraits musicaux, mais de temps en temps, je me permets d'en proposer un moi aussi. Et c'est ce que je vais faire tout de suite pour introduire cette émission. Voici une mélodie de Maurice Ravel pour piano et voix d'homme que j'affectionne tout particulièrement. Le texte est un poème de Stéphane Mallarmé qui s'intitule « Sainte ». On écoute tout de suite. C'était une mélodie de Maurice Ravel qui s'intitule « Sainte », un poème de Stéphane Mallarmé. Je me permets de lire les tout derniers vers de ce poème. « Du doigt que, sans le vieux santal, ni le vieux livre, elle balance sur le plumage instrumental, musicienne du silence. » Alors c'est un poème qui fait allusion à la flûte, qui fait allusion à la harpe, et qui termine avec cette proposition paradoxale, la musicienne du silence. Alors on pourrait presque penser que ce poème a été écrit pour vous, Elena Macherel, notre invitée d'aujourd'hui, flûtiste, qui avait enregistré 3 CD. Il y en a 2 qui sont avec harpe, et un troisième avec piano qui s'intitule « La musique du silence ». Alors, ce poème fait allusion à Sainte Cécile, patronne des musiciens, sans la nommer. Et dans l'iconographie, Sainte Cécile est toujours représentée en train de jouer de l'orgue. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que Stéphane Mallarmé a plutôt choisi la flûte et la harpe pour représenter la sainte patronne des musiciens ?
Quelle question ! De demander ça à une flûtiste. Oui, ce qui paraît évident au premier abord, c'est le côté féminin qui est souvent attribué à ces deux instruments. Ouais, la flûte, la harpe, on entend toujours, en tout cas j'ai souvent entendu dire c'est un instrument plutôt féminin. Et je dois dire que d'une manière, ces clichés pour moi sont d'une manière un peu réducteur. Donc c'est pas forcément une chose à laquelle je m'identifie ou que je me rattache. Au contraire, en fait, ce qui, ce qui me plaît avec ces deux instruments, c'est de réussir à aller au-delà justement des étiquettes qu'on lui impose et de ce qu'on attend de lui. Et c'est vrai, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de le faire justement à travers des transcriptions de pièces qui sont justement assez corsées, assez, vraiment très présentes et qui demandent énormément de puissance, de force, des choses qu'on n'attribue justement pas, en général pas à ces instruments. Et au contraire, je pense que l'expression de l'être, l'expression musicale, elle va bien, bien au-delà de l'instrument, en fait. Et ce sont des constructions sociales qu'on a attribuées à travers le temps. Et j'ai plutôt envie de me détacher de ces étiquettes.
Et donc la flûte traversière serait un instrument bien plus solide et massif que ça en a l'air, c'est ça ?
C'est pas que ça en a l'air, mais c'est que elle en a aussi les capacités, en fait. C'est qu'il y a toute une palette à utiliser, et c'est ça que je trouve intéressant. Au lieu de se contenter de rester dans ce qu'on lui demande de faire, d'aller au-delà, d'utiliser toute la palette qui est à notre disposition avec l'instrument, et de pas le réduire, en fait. C'est ça l'idée.
Et ça, c'est par rapport à la technique moderne de la flûte, de l'instrument qui a beaucoup évolué ces derniers temps, où depuis toujours, les flûtes ont en fait eu beaucoup plus de possibilités qu'on s'imagine.
Je ne pense pas que ce soit forcément lié à l'évolution de la flûte. Je pense que c'est plutôt la vision qu'on a de la sonorité qu'a cet instrument, qui est donc plutôt... on parle d'un instrument flûté, quand c'est plutôt un son... comment dire, assez cristallin, assez pur, plutôt aigu. Donc on lui attribue toutes ces choses, mais évidemment, à travers le temps, la flûte a énormément évolué. C'est plus du tout le même instrument. D'ailleurs, je joue un peu de traverso aussi, donc qui est une flûte traversière, mais sans clé, ou pratiquement sans clé, et en bois. Donc ces instruments d'époque sont vraiment complètement différents. On doit l'aborder d'une façon complètement différente, avec beaucoup plus de douceur, parce que... Mais ça, c'est valable pour la plupart des instruments baroques, qui ont besoin d'être traités différemment. Oui. Donc actuellement, on peut les jouer avec beaucoup plus de puissance. Mais ça, c'est lié, voilà, à l'évolution de l'instrument.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une clé sur une flûte ? Qu'est-ce que ça change, qu'il y en ait une ou pas ?
Ça change tout le système... Le système d'accordage, le système des doigtés. Donc, les clés nous ont permis d'ajuster l'intonation d'une manière beaucoup plus précise. En fait, c'est le système Böhm qui a été élaboré à la fin du 19e siècle, à peu près. Donc, à partir de là, ça a complètement décuplé... les capacités de l'instrument au point de vue de la justesse. Et il y a aussi l'instrument en métal qui est arrivé après coup.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une clé ? Parce qu'une clé, pour moi, c'est pour ouvrir une porte. Qu'est-ce que... Concrètement, c'est quoi ? C'est un objet qui se rajoute sur la flûte ou qui est dans la flûte ?
Ah, je dirais que ça fonctionne tel un clapet, en fait. Un clapet qui referme et qui ouvre tout simplement.
Ah, donc c'est un peu c'est ce qu'on voit par exemple quand si vous appuyez sur un des trous de la flûte, bah il y en a quatre qui descendent en même temps, c'est ça une clé ?
Pas quatre quand même, mais cela peut en baisser deux en même temps, c'est ça justement qui est intéressant dans le système Böhm. C'est le chromatisme qu'on peut réussir à avoir très facilement.
D'accord, et bien maintenant qu'on sait très bien qu'est-ce que c'est qu'une flûte, on va vous écouter en train de jouer votre flûte. Alors c'est un des morceaux qui se trouve sur le CD en duo avec la harpiste Tiasha Jaffner. Un des morceaux que je préfère, c'est Entracte de Jacques Ibert. On écoute ça tout de suite.
Radio Cité Genève. Thank you.
Alors, c'était Entracte de Jacques Ibert avec la flûtiste Elena Machrel, qui est notre invitée aujourd'hui, et la harpiste Tiasha Gaffner sur un CD qui s'intitule Danse pour flûte et harpe avec le label Orpheus. Alors, Tiasha Gaffner, c'est un peu une superstar chez nous, hein, de la harpe. Elle vient d'être couronnée il y a quelques semaines ou quelques mois au concours de l'ARD à Munich. Et je crois qu'un premier prix du concours de l'ARD pour une harpiste, c'est un peu le meilleur prix qu'on peut recevoir dans le monde. Donc vous êtes vraiment accompagné par du top niveau. Et vous-même, comment est-ce que vous êtes devenue musicienne professionnelle? Quel est le parcours en général pour devenir musicien, et quel est votre parcours?
Alors, je peux d'abord que parler de mon parcours qui est né en fait au sein de la musique, parce que je suis née dans une famille de musiciens et j'ai toujours été bercée par la musique, même avant que je sois née. Je pense que j'ai déjà dû entendre des notes de musique quand j'étais dans le ventre de ma mère, ça j'en suis sûre. Comme elle est violoncelliste, et mon frère aussi, mon père oboïste, donc toujours baignée là-dedans. Et évidemment, j'ai développé très vite une passion pour ça. J'ai demandé si je pouvais jouer d'un instrument très rapidement. Et pratiquement, dès que j'ai commencé à jouer de la flûte traversière, je savais déjà que j'avais envie d'en faire mon métier. C'était tout naturel. Donc, avec cette passion, je me suis mise à travailler beaucoup, en fait, beaucoup de motivation, de la passion pour les différentes pièces que j'interprétais, vraiment, ouais, beaucoup d'amour envers tout ce monde-là, en fait.
Est-ce qu'on peut dire que vous vivez votre rêve d'enfant aujourd'hui?
Ah oui, à 200%. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux, en fait.
Ouais. Et si vous avez des voisins qui ont un petit garçon, une petite fille qui semble douée pour la musique et très, très motivée comme vous, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil?
De toujours rester à l'écoute, ce qui a été le cas d'ailleurs de mes parents. Ils ont toujours été extrêmement à l'écoute, ouverts. Si j'avais pas envie, ils m'ont jamais forcé à rien. Pour eux, ce qui était important, c'est que ça vienne de moi, cette motivation. Donc de toujours, évidemment, les encourager à écouter beaucoup, à se baigner dedans, d'autant plus s'ils en sont déjà passionnés et doués.
J'imagine je le sais très bien, une vie de musicien, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de,
oh oui,
c'est beaucoup de travail, c'est parfois des périodes creuses, des périodes extrêmement qui se succèdent par des périodes extrêmement chargées. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients principaux d'une vie de musicien indépendant?
Non, mais ce que je trouve magnifique, justement, c'est toute cette diversité. De jamais être au même endroit, de jouer toujours avec des différents artistes, ce renouveau constant, moi c'est une vie, voilà, qui me convient très bien, de jamais vraiment tomber dans une routine et de toujours être nourri par les différents mondes dans lesquels on atterrit dans ce parcours.
Vous parlez de renouveau, et c'est un sujet que vous avez déjà évoqué un peu plus tôt, et vous êtes très intéressé par le renouveau notamment du répertoire, et vous faites vos propres transcriptions. C'est le cas avec un morceau de Richard Strauss qui s'intitule « La danse des sept voiles » que vous avez transcrit pour harpe et flûte. C'est sur le même CD de l'extrait qu'on a écouté avant. On écoute ça tout de suite.
Radio Cité Genève.
Thank you.
C'était la danse des sept voiles de Richard Strauss, interprétée et arrangée par Elena Machrel, qui est notre invitée d'aujourd'hui, avec la harpiste Tiasha Gaffner. C'est sur leur CD Danse pour flûte et harpe, sous le label Orpheus. Vous venez de publier dans un temps assez court 3 enregistrements. Donc il y en a 2 avec harpe, dont un avec orchestre, les London Mozart Players, et un autre pour flûte et piano. Quel est votre rapport à l'enregistrement? Quelle est l'ambition aujourd'hui de publier encore autant de CD alors qu'on sait qu'il y en a déjà des milliers? Alors, vous l'avez mentionné, vous faites vos propres transcriptions parfois, mais j'imagine qu'il y a une volonté bien plus profonde derrière tout ça.
Ah oui, bien sûr. Pour moi, justement, il n'y a jamais de fin à cette recherche de l'interprétation. À travers les temps, ça évolue constamment. On va avoir toujours une vision différente, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, voilà, de capturer un moment et de jamais laisser tomber cette manière de voir, de toujours continuer à, même après avoir enregistré 250 000 fois le concerto de Mozart, je trouve qu'il y a toujours un intérêt derrière. Et le côté personnel, moi-même, quand j'écoute des CD, quand je vais chercher des enregistrements, je suis toujours heureuse de tomber sur plein de versions différentes. Et c'est pas forcément toujours les mêmes artistes qui vont me plaire selon le répertoire. Donc voilà, c'est une petite pierre posée à l'édifice. Et mon rapport à l'enregistrement aussi en soi, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Ça m'a toujours appris énormément sur moi-même, sur aussi comment gérer l'enregistrement. Parce qu'on essaie de retrouver l'intensité d'un concert, mais ce n'est absolument pas ça. On n'a pas de public, on est devant un micro. Comment retrouver cette puissance du concert en enregistrement? C'est aussi quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions, et qui m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur ce domaine-là.
Et justement, comment vous faites-vous alors dans un studio d'enregistrement où il faut répéter les mêmes passages plusieurs dizaines de fois, où il n'y a pas de public, où vous êtes là du matin au soir? Comment vous faites pour retrouver cette intensité du moment de la création éphémère de l'interprétation devant un public?
Oui, c'est drôle parce que justement, on se prépare tellement pour être extrêmement précis dans notre interprétation. On a une idée tellement claire de l'idéal qu'on a, mais sur le moment, c'est improvisation. On doit réimproviser, réinterpréter, revivre pleinement la pièce à chaque fois. Donc on doit se rementaliser comme avant chaque concert, avant chaque prise. En gros, ça a été comme ça le processus pour moi, de recréer tout cet environnement.
Donc c'est de la visualisation, c'est ça?
Oui, je dirais. Oui.
Et vous faites comment? Vous méditez avant chaque prise, ou vous faites un petit mantra ou quelque chose?
Non, je dirais que j'essaie de décider une certaine direction que je vais prendre, et je prends une direction différente à chaque fois. Je vais faire une version plus mélodique, plus calme, plus... ou avec une image différente, simplement. Une poésie différente.
Donc on peut résumer en disant que c'est dans la diversité de vos intentions musicales que vous avez arrivé à retrouver dans un enregistrement l'énergie du concert.
Voilà, c'est ça. De recréer. Voilà, de nouveau cette question du renouvellement.
Ouais. Très bien. Bah après, merci de nous avoir ouvert vos cuisines en tant que créatrice d'enregistrement. On en a beaucoup parlé. Maintenant, on va en écouter un autre. C'est sur votre dernier CD avec l'ensemble London Mozart Players. Vous interprétez l'Allegro du Quatuor pour flûte de Mozart en Ré majeur, arrangé pour flûte et orchestre à cordes. On écoute ça tout de suite.
Radio Cité Genève. Thank you.
C'était le premier mouvement du quatuor pour flûte et de Mozart en ré majeur, arrangé avec pour orchestre à cordes, interprété par l'ensemble des London Mozart Players et par Elena Macherel, flûtiste qui est notre invitée aujourd'hui. Ça vient de paraître sur son CD, son dernier CD sous le label Claves. Alors, on vient d'entendre un orchestre, et je crois que vous êtes depuis quelques semaines, quelques mois, porté par une très grande nouvelle. Vous venez d'être nommée première flûte solo de l'orchestre philharmonique de Baden-Baden en Allemagne, et Dieu sait si l'Allemagne est quand même la plus grande référence en Europe en ce qui concerne les orchestres symphoniques. Alors concrètement, comment vous avez fait pour obtenir ce poste, et puis qu'est-ce que ça change pour vous, qui jusque-là était surtout une musicienne indépendante?
Alors ça a été quand même un long chemin, parce que les auditions d'orchestre, c'est tout un art. C'est quelque chose de très différent de ce qu'on fait d'habitude. Un concert, une audition d'orchestre, ce n'est pas le même métier. Même le métier d'orchestre n'a rien à voir avec l'audition en elle-même. Donc ça a été beaucoup de temps pour comprendre en fait comment ça fonctionne, comment réussir à être quand même inspiré au moment de l'audition. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on arrive, il y a un paravent. Donc on joue pour un paravent, on joue des extraits de 1 minute, parfois 2 maximum, et il faut réussir à être inspiré. Et ça a été pour moi une source de stress au début, parce que justement, ma force, je la trouvais toujours dans cette inspiration musicale, dans le fait de jouer ensemble avec les autres, d'avoir un but qui vient bien au-delà de... je sais pas, de la performance en elle-même. C'est quelque chose qui... Il y a un idéal derrière qui est tellement fort que ça me porte durant les concerts. Alors qu'en audition d'orchestre, on arrive et tout d'un coup, il faut être performant et on vient nous écouter, nous, en tant que nous-mêmes. Alors vous, que pouvez-nous nous présenter à ce moment-là? Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors à cette audition pour que vous la remportiez haut la main et que vous obteniez ce poste extrêmement convoité? J'imagine qu'il y avait des centaines de candidats. Oui. Vous avez été porté par une grâce exceptionnelle pendant ces quelques minutes derrière le paravent.
Mais même pas, j'ai même pas eu forcément cette sensation sur le moment. En fait, j'en suis arrivée à un point où dans ma préparation, il y a une certaine distance qui est arrivée, une certaine... psychologiquement en tout cas, où j'arrive, je me dis je fais ce que je dois faire sans me poser de questions en fait. C'est ce détachement qui m'a permis de pouvoir jouer du mieux que je pouvais en tout cas, parce qu'il y avait une période où c'était pas le cas. Donc je pense que c'est à force d'en avoir fait, à force d'avoir travaillé dessus aussi avec... Nolwenn Bargin qui m'a beaucoup suivi dans ce processus.
Oui. Quand j'ai parlé du poste, donc première flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, il y a beaucoup de jargon technique dans cette dénomination. En quoi ça consiste principalement? Qu'est-ce que c'est qu'une flûte solo? Qu'est-ce que c'est qu'une première flûte? Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre philharmonique?
Une flûte solo, c'est donc la flûtiste qui va jouer la partie principale de flûte, on va dire, et qui va aussi devoir lider les vents, les bois autour, avec le premier hautbois solo aussi. Donc avoir un rapport aussi avec le chef d'orchestre, devoir apporter des idées musicales à l'orchestre, voilà, faire aussi fédérer, je dirais.
Donc vous êtes un peu la première ministre de la partie des vents, quoi, dans l'orchestre.
Avec le hautbois, oui. D'accord. Je dirais.
Et un orchestre philharmonique, quelle est la différence entre symphonique, philharmonique, fanfare?
Déjà, c'est la taille, c'est la quantité de musiciens qu'on aura dans l'orchestre. Et aussi, si on a des trombones, combien de trombones on a, combien de corps on a, le nombre de positions en fait, qu'il y a dans l'orchestre. Donc un orchestre philharmonique, il aura plutôt tendance à jouer des grandes symphonies, plutôt des époques romantiques, modernes, voilà, des choses de grande envergure, alors qu'un orchestre de musique de chambre va plutôt jouer du répertoire classique ou baroque, romantique aussi, mais voilà, peut-être en plus petite formation. Donc c'est un répertoire différent.
Et alors ces choses de grandes envergures, ces grandes symphonies romantiques, c'est un nouveau répertoire pour vous ? J'imagine que vous en avez déjà fait pas mal quand vous faisiez partie d'orchestre académique ou quand vous jouiez en renfort pour d'autres orchestres. Qu'est-ce qui va changer par rapport au répertoire ? C'est la teneur du répertoire ou peut-être que vous allez en faire beaucoup plus ?
Ce qui va changer Disons que dans le passé, j'ai déjà eu l'occasion de jouer au Verbier Festival. Et d'ailleurs, ce sera à nouveau le cas cet été, en juillet. Et cet orchestre nous permet de parcourir justement ces répertoires de symphonies comme les symphonies de Mahler, les symphonies de Shostakovich, Bruckner. Donc, ce sera aussi le cas, en fait, à la Philharmonie de Baden-Baden. Donc j'ai vraiment hâte de revivre en fait ces choses, quelque chose qui était assez unique à Verbier justement pour moi, parce que auparavant j'avais joué beaucoup plus en orchestre de chambre. Donc c'est d'autant plus un répertoire qui depuis que je suis enfant me passionne. Donc je dois dire que je me réjouis énormément de reprendre ce style de répertoire.
Donc ce que vous faisiez à Verbier un mois par an auparavant, vous allez le faire toute l'année maintenant.
Voilà, c'est ça.
Très bien, on parle des grandes symphonies romantiques. Vous nous proposez une grande symphonie moderne. Il s'agit de la 6e de Shostakovich en si mineur. C'est l'Orchestre National d'Écosse qui joue, dirigé par le légendaire chef d'orchestre Némé Järvi.
Radio Cité Genève.
C'était la 6e symphonie de Chostakovitch en si mineur, interprétée par l'Orchestre national d'Écosse et dirigée par le chef d'orchestre Némé Yarvi, un des extraits proposés par Elena Macherel, une flûtiste et l'invitée d'aujourd'hui sur Entre les âges à Radio Cité. Alors, vous êtes flûtiste, j'imagine que vous avez choisi cet extrait parce qu'il y a quand même beaucoup de flûte dans ce final.
Oui.
Est-ce que c'est typiquement le genre de trait musical que vous allez faire de nombreuses fois maintenant que vous êtes première flûte solo à l'Orchestre Philharmonique de Baden-Baden?
Je dois dire que je l'espère parce que cette symphonie, je l'ai écoutée, réécoutée tant de fois avec justement son magnifique solo à deux flûtes que je rêve de faire depuis longtemps et j'espère vraiment que l'occasion se présentera.
On a jusque-là parlé quasiment que de musique. Et maintenant que vous avez ce poste prestigieux dans un grand orchestre prestigieux, mais que vous avez aussi toujours votre carrière de musicienne indépendante avec des concerts, des enregistrements, ça vous donne en fait énormément d'impact sur le monde de façon plus générale. Est-ce que vous allez profiter de tout ça pour aider la société, le monde à aller dans un sens? Est-ce que vous pensez à ces choses-là parfois? Ou vous êtes uniquement concentré sur la musique?
Non, bien sûr, mais justement, en fait, avec tout ce qui se passe, toutes ces guerres qui sont déclarées, un monde quand même qui n'est pas si simple à vivre, une période qui est un peu compliquée pour le moral, il faut le dire. Je dois dire que je trouve qu'en soi, la musique est c'est un cadeau pour nous déjà. C'est une manière de trouver de la beauté parmi tout ça, de nous laisser guider et peut-être d'inspirer quelques personnes et de les faire rêver, de les faire leur faire ressentir des choses qu'ils n'ont peut-être jamais ressenties auparavant. Le fait de partager des œuvres si belles, ça nous permet de vivre. Et de trouver de la joie de vivre malgré tout ce qui se passe en ce moment. Donc je dirais que, en soi, la musique ne peut que faire du bien, ne peut qu'aider. Et je suis heureuse de faire ce métier, ça c'est sûr.
La beauté sauvera le monde, comme disait l'autre.
Oui.
Alors, puisqu'on part un peu du domaine quand même très spécialisé de la musique classique, j'en profite pour passer un autre extrait que vous nous proposez. Il s'agit du grand pianiste de jazz Brad Mehldau en solo. C'est un morceau qui s'intitule tout simplement Prélude et qui fait partie de son CD Après Forêt.
Radio Cité Genève. Thank you.
C'était Prélude de Brad Meldow, grand pianiste de jazz. Petite parenthèse jazz dans cette émission plutôt tournée sur la musique classique avec notre invitée du jour, Elena Macherel, flûtiste. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission et c'est notre petite tradition chez nous. Vous n'y échapperez pas, malheureusement. La question qui tue. Alors, Elena Macherel, dans la presse et dans le milieu musical, on vous présente toujours comme flûtiste et compositrice, ce qui a évidemment éveillé ma curiosité. Après quelques recherches, je n'ai malheureusement rien trouvé de vos œuvres. Alors, ne le prenez pas mal, mais qu'est-ce que vous attendez pour nous les partager?
Oui, c'est une grande question. Et pour l'instant, je garde mes œuvres bien au chaud dans le tiroir parce que j'ai encore besoin de temps avant de pouvoir les partager. J'ai encore besoin d'évoluer sur ce plan-là, de composer davantage, de trouver aussi davantage de temps pour développer toute cette partie-là. Donc, pour l'instant, je ne me sens pas d'ouvrir au grand public.
Et ce développement que vous voudriez encore réaliser avant de publier vos œuvres, c'est un travail sans fin sur ces œuvres-là ou c'est plutôt un temps psychologique pour attendre le bon moment de les publier ou autre chose?
Peut-être un temps psychologique, effectivement. Peut-être d'affirmer davantage ce que j'ai en tête, ce que je veux vraiment à travers ces compositions, qu'est-ce que j'ai réellement envie de transmettre. Et justement, j'ai comme projet d'écrire 3 miniatures pour flûte et piano. Donc c'est un projet de les enregistrer et peut-être de les publier bientôt.
Eh bien, espérons que si un jour on refait une émission avec vous, on pourra les écouter, les partager avec nos chers auditeurs. C'était l'émission Entre les âges, présentée par François-Xavier Poisat. Merci à Elena Macherel, flûtiste et compositrice, d'avoir été notre invitée du jour. Merci à Olivier Steinmetz pour la production de cette émission. Et à bientôt sur Radio Cité Genève. On se quitte avec un extrait tout en douceur qui fait partie du dernier CD d'Elena Macherel. Il s'agit de l'Andante du deuxième concerto de Mozart pour flûte et orchestre qui fait partie de son dernier CD avec les London Mozart Players sous le label Claves. À bientôt. Thank you.
Émission Entre les âges.